Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir, saison 2, épisode 12. Voici Céline Landreau, Vincent Parisot, Laurent Tessier, Brice Dugénie, Greg Caradoni et Cyprien Cini.
Ouais, c'est incroyable, vous avez vu cette entrée en scène avec les spots, ça scintille, ça brille. Et oui, ils sont tous là, et notamment avec à la baguette Cyprien Cini. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Vous avez le sommaire.
C'est la star de la semaine, le vaccin contre le coronavirus. On ne sait pas vraiment s'il est efficace, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il se conserve à moins 70 degrés. Et ça, bah ça complique déjà un peu les choses. Alors comment on fait? Eh bah ben vous le saurez en écoutant On défait le monde. Une date qui fait froid dans le dos, vendredi 13 novembre. Il y a 5 ans, les rues de Paris et le Bataclan étaient attaquées. Vous découvrirez comment les forces de l'ordre ont tiré les leçons de ce drame dans leur gestion des actes terroristes. Chaque vendredi, elle traque les faux pas ou la mauvaise communication. Céline Landreau et son loser, son grand perdant de la semaine. Et ce soir, bah c'est un peu touche pas à mes huîtres.
Hein. Oui, les ostréiculteurs ne digèrent pas une publicité de Bouygues Télécom.
Le billet retour de Brice Dugénie qui revient sur ce qui a fait la une et qui a un peu disparu de l'actu avec aujourd'hui bah, l'histoire d'un naufrage en Italie.
Oui, le 13 janvier 2012, le capitaine Francesco Schettino échouait le Costa Concordia, début d'un improbable feuilleton.
D'ici 20h, vous aurez également vos trois infos pour briller avec vos compagnons de confinement. On vous emmènera, bah, il faut, en pleine tempête sur le Vendée Globe, à bord du bateau de Maxime Sorel qui réalise son rêve.
Maxime. Eh
oui, en participant à son premier tour du monde en solitaire. On avait parlé avec lui avant le départ.
Oui.
On aura des nouvelles dans la tempête. Et puis on n'oubliera pas non plus de vous couvrir de cadeaux avec une tablette tactile.
Pas vous, Vincent. Hein.
Non, pas vous, vous pouvez pas jouer.
Moi, j'espère gagner l'autre cadeau.
Ouais, mais alors, c'est la possibilité de gagner la guitare d'Angus Young, leader du groupe AC/DC. On vous explique comment on fait tout ça vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 12.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Il y a quelques jingles improbables. Hein. Oui. Alors, avant ce magnifique sommaire, on surfe, évidemment. C'est avec vous, c'est le surf de la semaine.
Eh bien, cette semaine, on a rapidement pu voir qui avait séché les cours d'anglais LV1 au lycée.
Ségolène Royal, bonjour.
Bonjour. Eh oui, Ségolène Royal, très remontée sur BFM TV. Oui. Contre quoi, d'ailleurs?
Alors, on nous dit, comment ça s'appelle? Click and collect, Black Friday.
Quoi.
Non, mais maintenant, on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est? Click and collect, Black Friday, mais c'est ridicule.
Black Friday. Oui, deux fois elle le dit en plus, elle a vraiment du mal. Mais qu'elle se rassure, elle n'est pas la seule. On a aussi eu du Elisabeth Borne, qui a un peu de mal aussi.
Un l'an dernier, au lendemain du Black Friday, pardon.
Ouais, faut vraiment l'annuler ce truc en fait, c'est trop compliqué à dire. Bon après, niveau anglais, nous à RTL, on a Yves Calvi ce matin.
Aujourd'hui, nous allons revenir sur le documentaire polémique et complotiste Hold Up. Hold Up d'ailleurs, en français.
Ouais, bon, comme il veut. Hein.
Dans cette semaine, vous n'avez pas pu le rater, c'est ce coup de théâtre dans l'affaire dite du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Jusqu'ici, Takieddine affirmait avoir servi d'intermédiaire. Hors coup de théâtre, il revient sur ses accusations pour dédouaner l'ancien président.
Oui, Ziad Takieddine dit qu'il n'y a pas eu de financement libyen. Et alors, il explique carrément à la télé, écoutez bien.
J'ai toujours dit, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy.
Ah oui, ça, il l'a toujours dit.
Toujours. Devant les juges.
Pas que. La campagne présidentielle a été financée par la Libye. M. Sarkozy a bien été financé pleinement par la Libye et le colonel Kadhafi.
Est-ce que de l'argent a été versé?
Oui, par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi, à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, directement.
Et là où il est fort, c'est qu'aujourd'hui, les yeux dans les yeux, il te dit...
J'ai toujours dit, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy.
Toujours donc, hein. Bon, sinon pensez pour François Hollande ce soir.
Je veux être utile à vivre et à rêver.
Oui, je crois qu'il a vraiment envie de servir à quelque chose et d'être utile. Qu'on le remarque en ce moment, l'ancien président, il sait plus quoi faire pour qu'on parle de lui, tellement au bout du rouleau que cette semaine, il a même fait une vidéo Twitter pour proposer ses services aux profs et éventuellement sur un malentendu qu'ils utilisent ses livres. Écoutez, il a fait sa promo.
Cher professeur, j'ai écrit ces derniers mois 2 livres pour les jeunes. J'ai réalisé des vidéos qui sont à votre disposition.
J'étais passé à côté.
Pour servir de support.
C'est
donc
lui,
si vous en faites la demande,
c'est
vous
pas
pourrez
monté.
Obtenir libre accès à ces documents.
Oui, c'est sur son compte Twitter personnel. S'il vous plaît, utilisez mes livres parce qu'on a du stock en ce moment, visiblement. Et en l'air de rien, il te glisse l'argument massue, toujours dans cette même vidéo, en toute modestie, discretos.
Je ne suis, si je puis dire, qu'un ancien président qui met son témoignage, son expérience, celui au cœur de l'État, au service de la jeunesse.
Oui, en toute simplicité, après vous faites ce que vous voulez, hein, surtout, il ne faut pas vous forcer. Sinon, pendant ce temps-là, au Turkménistan, pays que seul notre grand reporter du service étranger, Brice Dugénie, est capable de placer sur une carte.
Oui, hein, absolument. C'est un des pays les plus fermés au monde, 179e au classement mondial de Reporters sans frontières de la liberté de la
presse. Capitale du Turkménistan.
Ashkabad.
Ouais, il avait préparé le truc.
J'ai travaillé, j'ai travaillé.
Voilà, bref, au Turkménistan. Cérémonie officielle, en grande pompe, le président Gurbanguly Berdimuhamedov.
C'est comme ça, hein? Oui, alors là, je peux pas.
Voilà.
Peux pas
a inauguré une statue géante en feuille d'or de plus de 6 mètres de haut. Cérémonie retransmise à la télé. Ouais. Cérémonie pour inaugurer la statue
d'un chien.
Oui, un kleps, la race de chien préférée du président.
Pour lui dire un toutou.
Un chien de 6 mètres de haut, tout en or. Alors, c'est la race, c'est un alabaï. Hein, ça ressemble un peu à un berger des Pyrénées. Bref, très joli. Du meilleur effet. De quoi se dire qu'on a quand même hâte d'être en week-end confiné. Votre week-end confiné cette semaine, sponsorisé par Ségolène Royal.
Non, alors on renvoie les gens vers Netflix. Puisqu'on regardez les films, abrutissez-vous, fumez, restez chez vous. Et c'est tout.
Et bon week-end, surtout. Vivez la semaine prochaine.
Merci, Cyprien.
On défait le monde sur RTL.
Mais ne partez pas trop loin, parce qu'on a quand même la première grosse info de la semaine. C'est une actualité qui a chamboulé toute la planète, le vaccin de Pfizer.
Et oui, ce vaccin tant espéré contre le coronavirus, vaccin annoncé qui serait efficace à 90%. Et surtout, et c'est ça qui nous a interpellés, qui se conserve à moins 70 degrés. Et là, Laurent, ben, j'ai envie de vous dire, on fait comment? Parce que des congélos à moins 70 degrés, a priori, ben, on ne trouve pas au supermarché du coin.
Oui, et par exemple, le vaccin contre la grippe, hein, vous savez que vous mettez dans votre frigo est conservé entre plus 2 et plus 8 degrés. Sauf que celui de Pfizer et BioNTech est basé sur une technologie différente, très innovante, et donc conservé, vous l'avez dit Cyprien, à moins 70 degrés. Mais bonne nouvelle, ces super congélateurs existent déjà. Ah. François Lerouge est le directeur commercial de la société Medifroid.
C'est grand comme le réfrigérateur de la maison. Une armoire avec des isolants très importants pour conserver bien sûr la température. Et puis ce qu'on appelle un groupe froid avec un matériel de pointe. Ça peut aller jusqu'à des modèles de plusieurs centaines de kilos qui pourraient être ce qu'on appelle une chambre froide.
Et vous avez des modèles qui font aussi 8 litres. Hein, c'est l'équivalent d'un gros sac à main.
Ah bah un sac à main, bah, c'est pour Céline
bon,
ça.
C'est bon Laurent. Oh là là, ce cliché.
Aïe aïe.
Donc là, c'est rassurant, Laurent, tout va bien alors.
Alors, bah non, parce qu'on ne trouve pas partout ces super congélateurs. Hein. C'est simple. Dans les 20 000 pharmacies en France, il n'y en a pas. Ils sont dans les centres de recherche, les hôpitaux, les laboratoires d'analyse. Les CHU en ont 2-3 en général. Et vous allez me dire, bon, c'est simple, on met ces vaccins dans les congélateurs déjà disponibles.
Ah oui, c'est simple.
Eh bah non, pas forcément pour François Lerouge de Medifroid.
Ah, mais très clairement, on n'en a aucun capable d'accueillir du vaccin à l'heure qu'il est. Les modèles présents sont tous utilisés. Alors, quand bien même ils ne sont pas à saturation, ils n'ont pas vocation à accueillir du vaccin ou du stock de vaccins. Donc autant dire qu'il n'y a aucun appareil nulle part disponible aujourd'hui pour stocker les milliers de vaccins prévus, voire les millions de vaccins. Bien là, on restera avec notre caisse et puis on regardera les produits.
Ah, c'est embêtant ça.
Ouais, une boîte de 10 vaccins, on pourra toujours les recaser quelque part, mais des milliers, des millions, effectivement, ça change la donne. On compterait un peu plus de 1000 congélateurs de ce type vendus sur le marché français chaque année. Mais si on n'en a pas assez, allons en acheter alors. Le coût de ce produit pour une taille allée d'un mètre 80 est entre 8000 et 16000 euros, sauf qu'il faudra bien que quelqu'un sorte le porte-monnaie.
Nous ne pouvons pas prévoir, nous, des milliers et des milliers de machines sous prétexte que peut-être on va en avoir besoin. Il faudra des commandes fermes de l'État pour qu'on puisse, nous, s'engager en fabriquer et en délivrer, parce qu'on ne va pas stocker un millier de machines si on n'est pas sûr de pouvoir les vendre. Aucun produit n'est fabriqué en France aujourd'hui.
Et autre problème, si on leur ajoute le délai de fabrication dans quelques pays européens, il faut compter 15 jours, 3 semaines pour être approvisionné régulièrement, plutôt 2 mois quand ils viennent de l'Asie. Donc on peut avoir ces congélateurs, mais il faut s'engager.
Alors comment on fait si on ne met pas suffisamment d'argent sur la table?
Bah, pas de panique hein, pour Christian Bréchaud, c'est l'ancien patron de l'INSERM et l'ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Tout le monde ne se fera pas vacciner en même temps.
Dans un premier temps, on va vraiment centrer la vaccination sur des populations à risque, sur du personnel de santé, chez des gens âgés, chez des gens fragiles. Si on reste sur ce vaccin, on aura dans un premier temps des vaccinations dans des centres spécialisés, je dirais, qui n'auront pas trop de problèmes.
Et un avis que ne partage pas Philippe Besset, c'est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Des centres spécialisés pour cette vaccination seraient complètement contre-productifs.
On ne va pas répéter l'échec des vaccinodromes qu'on a vécu avec H1N1. Le plus grand défi, c'est de convaincre la population de se vacciner. Et la population, elle a confiance en son médecin, en son infirmier, en son pharmacien, dans les professionnels de terrain qu'elle connaît tous les jours.
Ouais, sauf qu'il faut pouvoir stocker ces doses dans les pharmacies. On en revient au défi logistique. On en revient au point de départ. Et de toute façon, on est en pleine course au vaccin. Pour un autre vaccin, d'autres doses avec un stockage à moins 20 degrés, un congélateur normal fera l'affaire. Après, il faudra convaincre la population. Je vous rappelle, ce sont d'Agipsos qui date de septembre. 59% des Français compteraient se faire vacciner contre la Covid-19. Bah, nous sommes l'un des pays où l'intention de recourir au vaccin est la plus faible.
Voilà, merci beaucoup. C'était très très clair. Qu'est-ce qu'on va faire, Cyprien, dans un instant ?
À suivre, la première info pour briller.
Ah bah on n'a rien entendu, là.
La première info pour briller au dîner. Et puis les leçons tirées par la police depuis les attentats.
C'est ça, la radio avec un masque. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Bon, en même temps, par les temps qui courent, au dîner, il n'y a pas grand monde autour de la table, mais on va quand même briller. Et on va briller avec le jardinage. Oui, c'est possible, Brice Dugénier.
Oui, la semaine dernière, on a parlé de l'équipe de campagne de Donald Trump qui a confondu pour l'organisation d'une conférence de presse l'hôtel Four Seasons de Philadelphie, un hôtel de luxe, avec une entreprise de jardinage également appelée Four Seasons, les quatre saisons, sauf que c'était dans la zone industrielle de Philadelphie. Alors, le directeur de l'entreprise, il n'avait pas bien compris pourquoi l'équipe de Trump avait besoin de son parking, coincé entre un crématorium et un magasin de chars.
C'est quoi un magasin de charme?
Un sex shop, si
d'accord,
vous
ok. Voilà. Non, il faut dire les choses.
Voilà, absolument, c'est un sex shop, mais je privilégie le français.
Okay, okay, oui.
Donc la conférence de presse a bien eu lieu, et figurez-vous que plein d'humour, les jardiniers ont repris et détourné les slogans de Donald Trump depuis pour les imprimer sur des t-shirts qu'ils vendent sur leur site internet. Alors, Make America Great Again est devenu Make America Rake Again, et rake en anglais c'est le râteau. Donc ce n'est plus rendre sa grandeur à l'Amérique, mais que l'Amérique ratisse à nouveau son jardin. Et puis il y en a un autre, c'est In God we trust, vous savez, cette phrase qu'il y a sur les billets de 1$, et bien ils l'ont transformé en In sod we trust, nous croyons dans le gazon. Plutôt marrant et plutôt malin, les jardiniers de Philadelphie.
Bravo. Merci beaucoup, Brice. On va briller ce soir.
Allume la lumière.
Ah, allume la lumière. Ça, c'est quand un expert vient nous éclairer sur l'actualité.
Et forcément, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 novembre. Il y a 5 ans, jour pour jour, la France vivait une soirée d'horreur. Des commandos terroristes semant la mort dans les rues de Paris et au Bataclan.
Oui, l'ampleur de l'attaque va révéler certains dysfonctionnements, des problèmes d'organisation, de communication et des rivalités entre services.
5 ans plus tard, on a voulu savoir si les leçons avaient été tirées de cette funeste soirée. Et donc, pour allumer la lumière sur le sujet, on accueille Michel Laveau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de la police nationale, donc déjà merci de nous avoir rejoints.
Merci à vous.
D'abord, qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Comment ça se passe aujourd'hui quand il y a un acte terroriste qui est commis par rapport à avant?
Alors d'abord, ce qui a changé il y a 5 ans, c'est l'intensité de cette attaque terroriste à laquelle nous n'étions plus habitués. Tous ceux qui nous écoutent se souviennent de là où ils étaient il y a 5 ans. Voilà. Le 13 novembre, on se souvient tous, donc je voudrais avoir une pensée pour les victimes, leurs proches, les policiers qui sont intervenus ce soir-là, et rendre hommage, et avec sincèrement beaucoup d'émotion, parce que c'était un drame atroce. Donc effectivement, qui dit drame, dit pour la police nationale, voir ce qui s'est passé et comment on peut s'améliorer. Un premier exemple, quand je suis rentré dans la police, quand il y avait une scène avec des coups de feu, ce qu'on appelle la patrouille de police, les primos intervenants, ils entendaient ça. Ils assuraient le périmètre pour que les gens ne s'enfuient pas ou d'autres ne viennent pas au contact des coups de feu. Et ils attendaient l'intervention des services d'élite. Les services d'élite, le RAID, la BRI. On s'est rendu compte que les terroristes, en fait, tuaient jusqu'à ce que la police intervienne. Et donc, on a demandé aux policiers dont je parlais, aux policiers de la rue, aux policiers de patrouille, quand il y a une scène d'attentat, quand il y a un périple meurtrier, de se rapprocher et d'aller au contact. Donc le métier a radicalement changé. Le policier de 2020, c'est plus celui de 2015. Et concomitamment, on a mis en place ce qu'on appelle le schéma national d'intervention, qui fait que en tout point du territoire, 24 heures sur 24, des unités vont immédiatement se porter en renfort des primos intervenants, les BAC, les CRS, le RAID, le GIGN, quand c'est en zone de compétence gendarmerie nationale, pour ensuite aller au contact des terroristes et là, pour les neutraliser ou les interpeller.
Ça veut dire que depuis 5 ans, n'importe quel policier, n'importe quel gendarme est formé pour à la fois affronter un terroriste, si l'on croise un demain, et évacuer les premières victimes.
Alors, dans un premier temps, son métier, ce sera d'aller au contact du terroriste ou du déséquilibré.
Il signale, quoi.
Il va au contact, voilà. Ouais. Vous allez dans la direction, moment et il intervient pour encore une fois entrer en contact, fixer l'adversaire en l'occurrence. Donc ça c'est fait. Ensuite l'évacuation des blessés, ça demande un tout petit peu plus de logistique, mais immédiatement dans les salles de commandement, si vous voulez, les PC opérationnels mettent en place ces dispositifs.
On se souvient au Bataclan qu'il y a un policier justement qui n'était pas d'une force d'élite, qui était entré et qui avait abattu sur la scène du Bataclan l'un des terroristes. Est-ce que cet événement-là a apporté des enseignements par rapport à ce que vous dites?
Bien sûr, mais malheureusement, tous ces événements nous ont conduit à réfléchir à nos méthodes. Alors ce policier, c'était le chef de la BAC Paris, mais encore une fois, son intervention a permis de sauver des vies. Et plutôt que d'attendre du renfort, du secours, il est rentré pour, encore une fois, être au contact des terroristes. C'est ça qui a radicalement changé. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps pour se dire qui va intervenir et comment, mais pourquoi, etc. Non, il y a une unité de police. Les policiers sont, je vous l'ai dit, équipés, parce qu'on a changé également l'équipement des policiers, formés, on a dispensé des interventions, parce que c'est quand même pas la même chose de faire un travail de police classique que de faire un travail de police que je viens d'exposer. Et je remercie et je rends hommage à tous les policières et policiers qui font ce métier, parce que ça souligne la dangerosité de notre métier. Et on a effectivement ajouté un petit peu une brique à leurs compétences. Et je rends et je souligne encore une fois leur mérite pour, quand on leur dit, voilà, il faut intervenir sur une scène d'attentat, ben oui, ça fait partie du pactage police, mais il faut leur rendre ici hommage et j'en profite pour le faire.
Vous parliez juste de l'équipement des policiers pour qu'ils puissent intervenir tout de suite. Qu'est-ce qui a changé dans leur équipement concrètement qu'ils n'avaient pas il y a 5 ans, qu'ils ont, dont ils disposent aujourd'hui?
Des protections, des casques lourds, des gilets lourds et des armes d'assaut qui puissent répondre à l'agression et aux munitions qui étaient employées, qui pouvaient être employées contre nous.
Vous nous disiez dès le début, le grand principe qui a changé, c'est que le premier policier, le premier gendarme qui arrive fixe les terroristes, entre en contact avec eux de manière à ce que les victimes soient les moins nombreuses possibles. Et on attend ensuite les unités d'élite pour pouvoir les neutraliser. Les unités d'élite, c'est le RAID, la BRI, le GIGN. Mmh. Est-ce que elles se sont déployées différemment aussi depuis 5 ans pour être sûres qu'elles puissent être là le plus vite possible, quel que soit le territoire?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Ce qui a été monté, ce sont des antennes. C'est-à-dire que le RAID n'est plus seulement autour de Paris. Il y a des antennes RAID. Le GIGN également n'est plus seulement autour de Paris, mais à des antennes. Et vous avez dans les territoires les effectifs BAC. Les CRS sont également formés pour intervenir sur des scènes d'attentats.
Eh bien, merci beaucoup Michel Lavaux d'avoir allumé la lumière sur les évolutions du travail de la police face aux terroristes. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de la police nationale.
Merci de votre invitation.
À suivre dans On défait le monde.
Vous découvrirez la deuxième info de la soirée pour briller. Vous découvrirez le loser de la semaine et vous découvrirez le jeu.
On défait le monde dans RTL Soir.
A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller, même confiné.
Voilà, l'info pour briller. Imaginons, Cyprien, on dîne tous les deux, ensemble, face à face.
Bah, imaginons alors.
Vous voulez...
Même pas en rêve.
Vous voulez briller, de quoi me parlez-vous?
Bien, je vais vous parler du futur président des États-Unis.
De
du président élu, comme on dit dans le jargon des grands reporters du service étranger, the president elected. Bref, de Joe Biden et de sa femme, Jill. Je vous parle de leur premier rendez-vous. À l'époque, au début des années 70, Joe est jeune sénateur et dans sa ville de Philadelphie, il a le coup de foudre pour une prof de 9 ans, sa cadette, Jill. Mmh. Joe prend donc son courage à deux mains et invite Jill pour un premier rendez-vous. Et qu'est-ce qu'ils font pour leur premier rendez-vous? Eh ben, ils sont allés au cinéma. Rien d'extraordinaire.
C'est vrai que c'est pas très original.
Oui,
dans
pour l'instant, ça brille.
Et c'est ça,
ça brille un peu.
Et c'est là où ça brille. Ils sont allés voir quoi comme film? Eh ben, ça.
Ah oui.
Oui, un film français, messieurs, dames. Ah oui. Un homme et une femme, chef-d'œuvre de Lelouch, tourné dans la merveilleuse ville de Deauville, sur les planches. Un film qui leur apporte des chances, puisqu'ils s'aiment depuis 45 ans maintenant. Oh. Premier rendez-vous, un homme et une femme.
Eh ben voilà, oui, vous pouvez
vous
briller.
Ah, pas mal, celle-là. Non,
vous aimez Deauville, apparemment. C'est
beaucoup
c'est
Deauville. Celle-là, je la garde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on désigne un loser, peut-être?
RTL.
Le loser de la semaine.
Ah oui, chaque semaine, elle met toute son intelligence au service du mal pour attirer notre attention sur celui ou celle qui s'est fâché avec le karma. Et ce soir, Céline, celui qui a raté sa com est pourtant un spécialiste des télécommunications, puisque c'est Bouygues Télécom.
Bah oui, le géant de la téléphonie qui a appris cette semaine que non, on ne pouvait pas rire de tout, même à l'approche de Noël, même quand arrive la trêve des confiseurs. Bouygues qui a sorti une nouvelle campagne publicitaire il y a quelques jours. Vous avez peut-être eu le temps de l'apercevoir à la télévision ou sur les réseaux sociaux.
Il fallait oublier les huîtres.
Ah, ça aurait été dommage. Allez. Oui, juste pour te dire, on est sur la route.
Ok, top.
Je vous laisse, il me reste plein de trucs à finir.
Bisous.
Bisous, bisous. Chouette, le dîner de Noël est imminent. L'ambiance est au top. Ouais. Sauf que dans la pub, celle qui reçoit oublie de bien raccrocher son téléphone.
C'était ma sœur. Tu verras, il s'est pas raccroché. Par contre, avec son mari Patrick, ils sont jamais d'accord.
Non, c'est pas vrai.
Tu auras aussi ma tante Béné.
Même brushing depuis 87. Et puis tu verras, elle offre toujours le même livre. Tu sais, les mini un truc là. Genre, mille et une recettes. Tiens, parlant de recettes, il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors, je sais que t'aimes l'aventure, mais là, je te le déconseille. Chaque année, il y en a un qui tombe malade.
Et là, c'est le drame. Oui, vous avez bien entendu. Elle se moque de son cousin et de ses huîtres. Oui. Cousin qui, une fois arrivé, lui glisse ceci.
Allez, j'ai pas ramené d'huîtres, je veux pas qu'il y en ait qui tombe malade.
Ok. Non. Alors là, évidemment, le personnage se rend compte que ses invités ont tout entendu. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Ce sont les allusions aux huîtres qui rendraient malades deux fois en quelques secondes. Trop, c'est trop là pour là les ostréiculteurs.
C'était drôle, non?
C'était, ils ne l'ont pas trouvé, Vincent. Pas pour les ostréiculteurs. Pas du tout. Les ostréiculteurs qui sont allés déverser à Lorient des paquets d'huîtres devant une boutique Bouygues Télécom. Alors là, ce que vous entendez, c'est le bruit des coquillages jetés devant la boutique. Et les Bretons ne sont pas les seuls à s'être énervés. Dans le sud aussi, on a vu rouge. Damien Henry est producteur à Loupion, c'est sur les bords de l'étang de Thau. Il était interrogé par nos confrères de France Bleu Hérault.
Moi, j'étais vraiment très énervé. Depuis deux ans, on a vécu des crises sanitaires qui étaient terribles. Et c'est pas pour qu'on vienne nous casser encore du sucre, surtout un grand groupe comme Bouygues. Bah, je voulais aller devant le magasin, il était exactement comme mes confrères sur la côte atlantique. J'aurais jamais pensé qu'il y avait encore des publicitaires qui puissent faire de telles scènes, qu'on fait de très triste du comportement de Bouygues.
Bouygues Télécom qui a vite fait marche arrière, présenter ses excuses. La pub n'est d'ailleurs plus diffusée ni présente sur la chaîne YouTube. Il disait quoi, Bouygues, déjà dans cette pub ?
On a tous très envie de passer Noël ensemble.
C'est pas gagné, non. Avec de bonnes huîtres, évidemment.
Mais oui, c'est bon, les huîtres, on adore ça.
Évidemment.
On veut jamais tomber malade avec des huîtres.
Bon, j'ai le droit de trouver ça drôle, quand même. Dis donc,
oui,
c'est pas l'heure de jouer, là.
Ah oui, on a un cadeau. Et je crois même que c'est beaucoup plus qu'un seul cadeau.
Ah bon ?
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Vous avez les bras chargés ce soir, monsieur cadeau Grégory Carannoni.
Oui, absolument. Regardez ce que j'ai apporté.
Wow, génial, une guitare. C'est la guitare.
Et vous savez pourquoi j'ai décidé de vous jouer un petit riff célébrissime pour vous annoncer ce cadeau, justement.
Attendez. Allez, allons-y. One, two, three.
Attendez, hein.
Ouais, branche, branche.
Vous allez me dire si vous reconnaissez.
Je me souviens au tout début à CDC, I Went Away.
Ouais, c'est pas mal.
C'est au tout, tout début quand tu commences.
J'y arrive pas mal.
Je m'entraînerai
encore un peu. Tout ça pour vous dire que ce soir, vous remportez le dernier album d'ACDC qui s'appelle Power Play. Mais ce n'est pas tout, parce que les auditeurs de On Défait le Monde ont un privilège, celui de participer à un deuxième jeu qui se déroulera dans les Grosses Têtes le mercredi 2 décembre, pour cette fois pouvoir repartir avec la guitare signée d'Angus Young.
Wow.
C'est la guitare du guitariste.
Et en là, plus, c'est pas rien quand même.
J'ajoute dans le panier de monsieur Cadeau.
J'ajoute. Ouais. Oui, il y a eu un gros succès pour cette tablette facilotable il y a deux semaines, donc on en rajoute une ce soir.
Voilà. C'est une tablette comment ?
Une tablette facilotable, c'est une tablette tactile, facile d'utilisation. C'est comme
facilotable.
Rester connecté en plein confinement.
Donc voilà. Donc il y a la tablette, il y a la possibilité de participer au jeu pour gagner la guitare d'Angus Young. Ouais. Une chance, si vous gagnez ce soir, vous avez une chance sur 6 de gagner la guitare quand même.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme.
Non, mais c'est...
Et en plus le CD. Donc pour ça, il faut répondre à la question.
On attend la question.
Comment s'appelle l'entreprise qui dit avoir un vaccin fiable à 90% contre le coronavirus? Est-ce que ce sont les laboratoires Pfizer? Est-ce que ce sont les laboratoires Même Pas Peur? Ou est-ce que ce sont les laboratoires Chut Chut Pas de Marque? Est-ce que c'est Pfizer, Même Pas Peur ou Chut Pas de Marque? Vous avez la bonne réponse? 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants et on passera un coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission.
Et dire qu'avec ça, vous avez peut-être gagné la guitare d'Angus Young, c'est quand même.
Vous voulez que je vous refasse un riff?
Le monde est bien. Allons-y, au revoir.
Attendez.
Ah!
On reste vite quand même, hein.
Ouais, c'est bien. On y reste, c'est mieux. On verra tout à l'heure si vous y arrivez.
Soir, on défait le monde.
Et c'est l'heure du billet retour, je crois bien. Le billet retour, c'est quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle plus aujourd'hui, Cyprien.
Et ce soir, on revient sur un naufrage. C'était aussi un vendredi 13. Le vendredi 13 janvier 2012, il y a presque 9 ans.
cette nuit d'horreur à bord du Costa Concordia la nuit dernière au large de l'Italie.
Le navire vient de subir un choc très violent et commence à chavirer.
Où s'est échoué, je vous le rappelle, l'immense Costa Concordia.
Ce naufrage d'un navire Costa Croisière au large des côtes italiennes.
Le Costa Concordia et son commandant de bord, Francesco Schettino.
Ah oui.
Les recherches vont durer des jours. Bilan définitif, 32 morts. Et Brice, depuis 9 ans, il s'est passé quoi ?
Alors le personnage principal, vous le disiez, c'est Francesco Schettino, ouais. Capitaine. Alors il purge sa peine de 16 ans de prison à la maison d'arrêt de Rebibbia, c'est à Rome. Il a été condamné donc à 3 reprises en février 2015, en première instance par le tribunal de Grosseto, c'est le tribunal de la région de l'île de Giglio. Trop petit d'ailleurs, la cour avait été délocalisée dans le théâtre de cette petite ville pour accueillir les 300 parties civiles au procès, parce que je vous rappelle, il y avait plus de 4000 personnes à bord du navire. Après ce procès, après 19 mois de procès, il avait donc été condamné à 16 ans de prison, peine confirmée par la cour d'appel de Florence en 2016 et par la cour de cassation italienne en 2017, condamné donc pour homicide involontaire par imprudence, naufrage et abandon de navire imprudence, parce que je vous le rappelle, l'enquête a démontré que le capitaine avait voulu faire ce qu'on appelle une révérence, un passage de nuit toute lumière allumée très proche de la côte pour saluer les habitants. C'était une bien mauvaise idée.
Très proche et trop proche. Trop et du proche. Coup, il était devenu l'homme le plus détesté d'Italie.
Oui, il a été surnommé le capitaine Couard, sans courage, après la diffusion notamment de cet enregistrement. C'est une conversation en plein naufrage entre le capitaine Schettino et un garde-côte italien qui se rend compte que le capitaine a quitté le navire.
Qu'êtes-vous en train de faire, commandant ?
Je suis là pour coordonner les secours.
Qui coordonne là-bas ? Remontez à bord pour coordonner les secours.
Mais vous vous rendez compte qu'il fait nuit et qu'ici on ne voit rien ?
Mais que voulez-vous, Schettino ? Rentrez à la maison ? Ça fait une heure que vous me dites ça. Maintenant, vous allez à bord. À bord !
Dingue.
Mais Schettino, oui, absolument. Schettino, à terre, ne remontera jamais à bord du Concordia. Il devient donc la honte de l'Italie pour l'image qu'il donne de son pays dans le monde. Pire, alors qu'il est poursuivi par la justice, Schettino enchaîne les maladresses. La pire, il donne en 2014 une conférence dans une université prestigieuse à Rome sur la gestion de la panique en période de crise. Ouais, c'est presque drôle. Au cours de cette conférence, il évoque d'ailleurs le naufrage et précise que son expérience lui a permis d'avoir des bons réflexes. Ah bah oui. L'Italie est alors consterné par tant de légèreté, pour ne pas dire plus.
Et pour les victimes, il s'est passé quoi ?
Alors vous le disiez, Cyprien, le naufrage a fait 32 morts, dont 6 Français, mais il y a eu aussi beaucoup de blessés physiques et psychologiques qui ont été expertisés par des spécialistes des traumatismes d'accidents et de syndromes post-traumatiques. Ces victimes ont ensuite été indemnisées, ça a duré 3 ans, ça a été négocié avec la compagnie Costa, et ces indemnisations, elles vont en fonction du préjudice de 15 000 euros jusqu'au million d'euros, notamment pour les personnes qui ont perdu un proche dans l'accident.
Et alors ce paquebot, donc le Concordia, il est où maintenant ?
Alors, il est en petits morceaux désormais. Les 115 000 tonnes du Concordia sont restées échouées 2 ans et demi dans la baie du petit port de Giglio, adossées aux rochers, redressées, renflouées, puis tractées très lentement vers le continent. C'est au port de Gênes qu'il a ensuite été démantelé pendant 2 ans de plus. Coût total du chantier pour la société Costa, 1,5 milliard d'euros.
Et cette île où il s'est échoué, que vous connaissiez bien, parce que vous êtes allé faire les reportages là-bas
à l'époque.
Ouais, c'est un havre de paix à l'époque. C'est
bah,
devenu
en fait,
comment,
c'est dans les semaines et les mois qui ont suivi le naufrage, le tourisme a explosé, c'est-à-dire que les touristes ont afflué, c'était un tourisme un peu malsain, un petit peu morbide.
C'était pour voir l'épave ?
Oui, c'était pour voir l'épave qui est restée là plus de 2 ans. Les habitants de l'île, en fait, ce qu'ils craignaient, c'est que l'image de l'île soit définitivement associée au navire, au naufrage et surtout à la personnalité, évidemment, de Francesco Schettino. Alors aujourd'hui, le tourisme a repris, la citadelle, la vieille ville, le château, le petit port de Giglio ont retrouvé leur calme et leur tourisme, même si en ce moment, évidemment, c'est pas la période où il y a le plus de monde.
On sent que ça vous a plu comme endroit.
Ouais, c'est un endroit qui était vraiment très joli, mais qui reste associé au Costa Concordia. Dernière petite info, demain 14 novembre, Francesco Schettino fêtera ses 60 ans dans la prison de Rome.
Oh, bah on va lui souhaiter un bon anniversaire, hein, effectivement. Je sais pas comment on dit en italien d'ailleurs.
Tanti auguri.
Ah, bah voilà, on apprend tellement de choses dans cette émission. Ah, bah tiens, ça tombe bien parce que dans un instant, on va vous donner une info pour briller au dîner. Et à ce dîner, on va servir du Roquefort.
Défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info. Pour briller au dîner.
On va pas briller au dîner. Alors imaginons, Céline, que ben voilà, on dîne ensemble. Qu'est-ce que, de quoi vous nous parlez?
Décidément, vous avez envie de dîner avec tout le monde.
J'essaie, moi, parce que pour l'instant, en ce moment, les dîners sont rares. Donc je brille comment alors?
Vous aimez beaucoup ACDC, Vincent. Ouais. On en a parlé. C'est une journée spéciale sur RTL. Monsieur Cadeau vous en a parlé. Mais est-ce que vous saviez que la musique de ce groupe de rock originaire de Sydney était aussi une arme contre les dictateurs? Je vous emmène donc au Panama en décembre 89. Le dictateur Noriega, jusque-là soutenu par les États-Unis, devient un allié gênant pour les Américains à cause de ses liens avec les cartels de la drogue et avec Cuba. Alors le président américain de l'époque, George Bush, décide d'envahir le Panama pour capturer Noriega. Le dictateur se réfugie dans la nonciature, c'est la résidence du nonce apostolique, l'équivalent d'une ambassade, et par principe, donc, le Vatican refuse de le livrer aux États-Unis. Alors les Américains décident de lancer un siège très particulier, une guerre des nerfs musicales. Des haut-parleurs crachent une musique assourdissante, et notamment ACDC, guerre psychologique qui va finir par fonctionner, puisqu'après quelques jours, le Saint-Siège se plaint auprès du président Bush, et le nonce finit par convaincre Noriega de se rendre le 3 janvier 90.
Incroyable. Et ils avaient qu'à acheter des boules caisses.
Wow.
A priori, les enceintes étaient assez fortes, c'est vrai.
C'était très fort. Il n'y avait pas que du ACDC,
non,
d'ailleurs.
Pas que. Mais,
il y avait quoi, hein?
Il y avait plein de choses. Ah, il y avait du rock, mais ils envoyaient
rock,
ça à fond,
très fort.
Jour et nuit, usant.
J'aurais pu leur jouer un petit truc.
On va briller avec ça, hein. Ça c'est certain.
Marche ou rêve?
Alors, marche ou rêve? C'est que quand on parle de vos rêves, de vos initiatives un petit peu folles, c'est ça?
Ouais, exactement. Et la semaine dernière, Laurent, vous nous présentiez un marin, Maxime Sorel, qui s'apprêtait à vivre une aventure complètement folle, son premier Vendée Globe.
Ouais, la plus prestigieuse des courses, hein, qui a démarré dimanche au Sable d'Olonne. Et là, je peux vous dire que l'on ne s'est pas trompé en suivant Maxime, un départ exceptionnel avec son bateau. Il a même été en tête de la course mardi et mercredi.
Ah bah, oui, exactement.
Ça a pas duré quand même, hein, mais.
Bah non, mais voilà, c'est tellement génial que du coup, bah, on a décidé de prendre des nouvelles, surtout qu'en plus, il y a des tempêtes en ce moment. Donc, on a voulu le rappeler cette semaine. Bonsoir Maxime.
Bonsoir. Vous allez bien?
Impeccable. C'est à vous qu'il faut demander ça alors, parce que donc on rappelle, là vous êtes en pleine dépression là.
Ouais, c'est une dépression tropicale, donc une très grosse dépression avec beaucoup de mer et beaucoup de vent.
On vous a eu au téléphone la semaine dernière. C'était juste avant le départ. Bon, c'était un petit peu genre le stress, mais ça allait. Et là, vous êtes retrouvé en tête au début de la course. C'était pas prévu du tout, ça.
Alors, effectivement, un peu incroyable. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai un bateau d'ancienne génération qui est de 2007. L'objectif, il était clair, c'était d'abord finir et ensuite peut-être faire un podium de ces anciens bateaux. Mais bon, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que j'ai passé plus de quasiment 48 heures en tête de la flotte. C'est vrai que ça fait plaisir, hein, toujours bon à prendre.
À quoi ça ressemble autour de vous, là? Essayez de nous décrire. Là, vous êtes à l'intérieur, une dépression. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous faites un peu peur? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Puisqu'on rappelle, c'est votre premier Vendée Globe.
Ouais, alors non, pas vraiment. Là, on est quand même 4 dépressions successives sur la première semaine, c'est beaucoup. Généralement, on en a max 2 lorsqu'on traverse l'Atlantique. Là, en fait, pour essayer de décrire aux auditeurs, c'est une mer qui est un mix de bleu et de blanc parce qu'il y a tellement de vent que les crêtes de vagues se cassent. Il y a environ 5 à 6 mètres de creux qui sont vraiment désordonnés. Hein. Il n'y a pas de sens où elle souhaite aller. C'est vraiment une sorte de bouillon. Et le bateau qui avance à entre 15 et 20 nœuds, soit environ 40 km/h.
Vous n'avez pas peur?
Bah, avant de rentrer dans cette dépression, c'est toujours un peu stressant. Il faut faire le tour du bateau, voir si le bateau n'est pas fatigué, s'assurer qu'il est capable d'aller dans ces conditions-là. Et ensuite, mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire ne pas aller au cœur de la dépression, parce que c'est là où les vagues sont plus importantes. Et faire le tour, là on contourne cette dépression par l'ouest, pour éviter justement le maximum de vent et le maximum de vagues.
La semaine dernière, vous nous aviez dit, les 24 premières heures, je ne vais pas pouvoir dormir. Mais vous vous attendiez peut-être à 2 dépressions maximum. Là, ça fait 4. Vous avez réussi à dormir depuis une semaine?
Pas beaucoup. C'est clair que, à mon avis, en cumulé de sommeil max que j'ai dû faire sur 24 heures, c'est pas plus de 3 heures. Et là, la dernière nuit, j'ai pas pu dormir parce que j'avais un problème de pilote automatique. Donc j'avais un pilote de secours, mais le principal, qui est le pilote intelligent, qui barre super bien dans des conditions rudes, était pas présent. Et donc j'ai dû mettre les mains dans le circuit imprimé, faire mon électronicien pour pouvoir réparer tout ça.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous étiez allé faire dans cette galère ou pas encore?
Si, mais il paraît que j'aurai la réponse quand je serai revenu, donc il va falloir que j'attende 3 mois.
Il n'y a pas de regret quand même déjà?
Non, bien sûr. Dans la difficulté, je trouve du plaisir. Là, je suis très fatigué physiquement et c'est ça qui est dur, c'est que j'arrive pas à me rythmer au niveau du sommeil, de la nourriture. J'ai pas un vrai rythme à bord comme on peut avoir à la maison, on mange à midi, le soir, patati patata. Là, c'est plus compliqué parce que j'essaye de siester quand je peux, suivant les conditions et suivant ce que le bateau me dit de faire, quoi. Et ça, c'est pas évident.
Et la sieste la plus longue, elle a duré quoi, 20 minutes?
Ouais, c'est ça, ouais. 20 minutes, le temps que je mette le réveil, un énorme réveil qui fait 110 décibels pour que j'entende bien, sinon je me réveille pas. Le temps de le mettre, je mets sur 20 minutes, tant que je m'endorme, c'est un quart d'heure cumulé de sommeil max.
On vous avait raconté que ça allait être difficile, vous nous aviez dit, j'ai rencontré des gens qui ont déjà fait le Vendée Globe. Malgré tout, est-ce que c'est plus difficile que ce qu'on vous avait raconté?
Ben là, clairement, oui, pour un début de course comme celui-ci, c'est vraiment pas commun à l'époque. Et puis, à un début de course devant des globes, j'ai pas arrêté de manœuvrer sans arrêt. J'ai dû monter trois fois au mât pour aller décrocher une drisse. Donc, j'ai un peu des bleus partout et les muscles en feu, des courbatures que j'arrive pas à soigner parce que on n'arrête pas de manœuvrer. Non, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur pour un début de course.
En tout cas, on est avec vous. Hein.
On est avec vous. Ouais. Bien au chaud, mais bon courage. Hein.
C'était Maxime Sorel qui est en direct en plein milieu de l'Atlantique, hein, sur VNB Mayenne, en train de traverser pour le Vendée Globe.
À bientôt.
Bon vent et on se rappelle très vite, Maxime.
À très bientôt. Bonne fin de journée.
Marche ou rêve?
C'était quand même très sympa cette liaison. Hein, avec
incroyable.
Lui. Alors j'imagine son réveil 110 décibels. C'est un avion de chasse là.
C'est-à-dire que sinon il se réveille pas.
Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, ça m'étonne pas. En même temps, 20 minutes de sieste, c'est peu. Vous avez le résultat du jeu ou
on
pas,
a un gagnant. Un c'est gagnant. Il s'appelle Nicolas. Il habite à Châteauneuf-sur-Loire. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Salut Nicolas.
Fan d'ACDC Nicolas?
Ah un peu oui, je suis même batteur et je joue de l'ACDC avec mes potes. Hein.
Ouais, j'espère qu'il joue mieux de la guitare que notre ami Greg, hein, la guitare, parce que le Highway to Hell que vous faisiez tout à l'heure, c'était pas tout à fait ça.
Hein. Alors je rappelle l'énorme cadeau que vous avez gagné, Nicolas. C'est absolument dingue. Donc une tablette facile au tab, un CD, le dernier CD d'ACDC, et surtout, vous avez une chance sur 6 désormais de gagner la guitare d'Angus Young dédicacée par tout le groupe.
On est avec vous.
On est désolé, vous auriez peut-être préféré une batterie du coup, mais on ne savait pas.
Je vais me mettre à la guitare, c'est pas grave.
Oui, avec celle-là en plus, vous verrez, vous allez bien jouer. Hein.
Excellent.
La réponse, non?
On vérifie quand même que vous aviez la bonne réponse.
C'est un jeu.
Les laboratoires qui ont fabriqué le vaccin, est-ce que ce sont les laboratoires Pfizer? Est-ce que ce sont les laboratoires Tchut, pas de marque? Ou est-ce que ce sont les laboratoires.
Même pas peur.
Oulala.
Non, je crois que c'était Pfizer.
Bravo! Vous méritez cette guitare. J'espère que vous allez la gagner.
Aussi.
On est avec vous, on croise les doigts. Merci Nicolas.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Et merci à vous tous les amis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, vendredi. Pour défaire le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.